Bonjour mes amis. C'est une belle chanson, n'est-ce pas? Elle parle du monde merveilleux de la mer. Celui où, selon la légende, vivent les tritons et les sirènes, ces êtres fabuleux, moitié humains, moitié poissons. La petite sirène, dont je vais vous conter l'histoire aujourd'hui, était la plus jeune des sept filles du roi Triton, maître de l'océan. Son visage avait la fraîcheur d'un pétale de rose et ses beaux yeux bleus la douceur des eaux profondes de la mer. Elle portait le joli nom d'Ariel. Mais n'allons pas trop vite et revenons au début de cette histoire du temps passé telle que nous la raconte Walt Disney d'après le conte d'Andersen. Nous voici au milieu de l'océan. À la surface de l'eau calme et tranquille, un grand navire dresse la fière silhouette de ses trois mâts. Il vient de jeter l'ancre. Quelques dauphins turbulents glissent autour de la coque brillante. Les mouettes et les goélands, gracieux sur leurs ailes tendues, viennent frôler les grandes voiles blanches que l'équipage s'emploie à replier. À la proue du vaisseau, un beau jeune homme est appuyé à la rambarde, le regard tourné vers l'horizon. C'est le prince Eric. Il semble songeur, perdu dans ses pensées. Un vieux matelot, celui qu'on appelle l'aboyeur et qui annonce à l'équipage la tempête et les dangers, s'approche du jeune prince.
Un bon petit vent, mon prince. Et sûrement une mer qui va monter. Le roi Triton doit être content.
Le roi Triton? Qui est le roi Triton?
Le maître du peuple des sirènes, mon prince. Tout bon matelot connaît ça.
Eric, amusé et incrédule, fait un signe approbateur. À cet instant, le comte Grimsby, précepteur du jeune prince, intervient un peu brutalement.
Le peuple des sirènes? Eric ne croit jamais ces balivernes de marins.
Et moi, je vous dis que c'est vrai. Là, sous la surface de l'océan, il y a le monde des sirènes.
Disant cela avec conviction, le vieux matelot se penche vers les flots. Eric et Grimsby en font autant, mais tous trois ne voient que les reflets miroitants de l'eau. En fait, il était difficile d'imaginer que les rayons du soleil qui se glissaient à travers la surface de la mer irradiaient dans les profondeurs des poissons aux couleurs de l'arc-en-ciel, des algues et des corolles qui se balançaient au gré des courants marins, des récifs colorés et des grottes étroites qui conduisaient au palais resplendissant du roi Triton. Si nos trois amis avaient pu voir, ils auraient alors constaté que tout le peuple des sirènes était réuni dans la salle immense du palais de corail, où un gros crabe rouge, dont la carapace était polie comme un coquillage roulé par les eaux, conversait respectueusement avec le roi Triton. Ce crabe, nommé Sébastien, avait, entre autres tâches, celle de diriger l'orchestre royal.
J'attends beaucoup de ce concert, Sébastien. Je ne voudrais pas être déçu.
N'ayez crainte, sire. Ce sera le plus beau concert de ma carrière. Vos filles seront remarquables.
J'y compte bien, Sébastien. Et surtout, Ariel, ma petite dernière.
Oh, sans doute, sire. Une voix unique. Ah, si seulement elle avait voulu assister aux répétitions.
Flottant entre deux eaux, Sébastien dériva vers l'orchestre, leva sa baguette et la musique se fit entendre aussitôt. Émergeant de bulles irisées, six petites sirènes, filles du roi Triton, apparurent sur la scène.
Nous sommes les six filles du roi Triton. Notre père nous a donné de jolis noms. Aquata, Andrina, Arissa, Atina, Adela, Anana. Et voici la septième dans ses débuts musicaux. Notre petite sœur va faire le lever du rideau.
Elles glissèrent gracieusement vers le milieu de la scène pour se séparer et livrer la place à Ariel. Hélas, Ariel n'était pas parmi elles. Le roi Triton bondit alors de son trône en criant.
Mais où est-elle?
Tandis que le roi délirait de colère, Ariel, la petite sirène, se promenait en plein océan avec son compagnon favori, Polochon. C'était un poisson rond, joufflu et dodu qui la suivait partout. Ils tournaient tous deux autour de l'épave d'un vieux navire échoué sur le sable blanc. Ariel était sans cesse en quête d'objets curieux qu'elle collectionnait.
Oh, ça c'est mignon! Regarde, Polochon, as-tu jamais vu quelque chose d'aussi bizarre?
Ariel brandissait une petite fourchette d'argent terni qu'elle venait de découvrir.
Ah oui, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est?
Je n'en sais rien. Il faut consulter Eureka.
En un instant, elle gagna la surface de la mer et trouva Eureka, le goéland, assoupi au soleil sur un petit rocher.
Eureka, regarde ce que j'ai trouvé.
Oh, encore un truc qui appartient aux humains. Hein? Passe-moi ça. Oh, c'est spécial. C'est ultra compliqué.
Mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert?
Je dirais que c'est un tire-tif. Les humains l'utilisent pour mettre leurs cheveux en ordre. Regarde, des dents ici et un manche là, avec la forme d'un violon. C'est tout juste fait pour ces gens compliqués.
Ariel, ravie, s'empara de la petite fourchette et la passa dans ses longs cheveux roux. Elle était émerveillée.
Comme ça, Eureka?
Regardez-moi ça! Ma parole, on dirait qu'elle veut devenir un être humain.
Un tire-tif, quel joli mot!
À cet instant, Polochon, qui ne voulait pas être en reste, exhiba à son tour un autre objet. C'était une bonne grosse pipe à tabac trouvée au fond des eaux.
Et ça, Eureka? Qu'est-ce que c'est?
Oh là là! Alors ça, je n'en avais plus vu depuis des années. Ça, c'est presque un objet préhistorique. Il servait aux hommes pour se réunir et se comprendre. Ça leur servait à faire de la musique. Mais il a l'air bouché.
De la musique? Le concert royal! Oh là là! J'avais oublié! Mon père doit être fou de rage!
Affolée, Ariel enfouit sa petite fourchette dans son sac au trésor et nagea avec force vers le palais royal. Tandis qu'elle en approchait, deux anguilles de mer, ondoyantes et visqueuses, surgirent de l'ombre. De leurs gros yeux glauques, elles surveillaient sans cesse Ariel. Flotsam et Jetsam, c'était leur nom, étaient toutes deux au service de la terrible sorcière des mers, Ursula. C'était un être terrifiant, moitié pieuvre, moitié femme. Elle était repoussante avec ses tentacules violacées, gluantes et poisseuses. Chassée du palais royal par le roi Triton, Ursula attendait de prendre sa revanche. Elle aperçut la petite Ariel qui nageait de toutes ses forces.
Vas-y, petite princesse, dépêche-toi! Il ne faudrait pas manquer la fête du roi, n'est-ce pas? La fête du roi! De mon temps, lorsque je vivais au palais, j'organisais des fêtes fantastiques! C'était de grandes ripailles et de concerts! C'est tout ce qu'il en reste aujourd'hui. Et moi, je suis devenu ne moins que rien. Tout le monde me méprise. Il faut que je me venge. Flotsam, Jetsam, je veux que vous me surveillez de très près cette gamine. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sûr que c'est par elle que j'arriverai à assouvir ma vengeance contre le roi.
Tandis qu'Ursula grognait et grommelait, Ariel pénétrait dans la grande salle du trône. Le roi l'attendait. Sébastien Sévère se tenait à ses côtés.
Je me demande bien ce que l'on va faire de vous, mademoiselle.
Oh, père, je suis désolée. J'ai juste oublié.
Voilà le résultat de votre désobéissance.
Désobéissance et indépendance.
La fête a été compromise.
Disons plutôt que ce fut une catastrophe. La honte de ma carrière. Me voilà devenu la risée de tout le royaume.
Polochon pensa qu'il devait venir au secours de sa chère compagne. Il se mit à raconter ce qui lui passait par la tête.
C'est pas de sa faute. D'abord, il y a eu le requin qui nous a poursuivis. Oui, un requin. Et nous lui avons échappé. Quand j'ai su qu'on était sauvés, le goéland nous a rencontrés et s'est mis à nous raconter sa vie. Et patati, et patata, et...
Le goéland ? Vous êtes donc monté à la surface à nouveau. Vous savez que c'est interdit. Interdit.
Mais il n'est rien arrivé.
Combien de fois m'as-tu entendu à ce sujet, Ariel? Tu pourrais être vu par l'un de ces barbares qui vivent sur la Terre et qui s'appellent des humains.
Mais père, pourquoi dis-tu que ce sont des barbares?
Ils sont méchants et dangereux. Ils chassent tous les habitants de l'océan. Crois-tu que j'ai envie de voir ma fille prise dans leur filet ou accrochée à leur harpon?
Oh, j'en ai assez d'être traitée comme une enfant. J'ai 16 ans, père, vous l'oubliez.
Et moi, je te demande de ne pas me répondre sur ce ton. Tant que tu vivras dans ce royaume, tu en accepteras les règles.
Mais si tu voulais seulement m'écouter...
Plus un mot là-dessus. Je t'interdis d'aller à la surface de l'océan, c'est tout.
Ariel s'enfuit en larmes. Le roi, pris de remords, demanda alors à Sébastien.
Je ne sais plus. Crois-tu que j'ai été trop dur, Sébastien ?
Pas du tout, sire. Si Ariel était ma fille, je montrerais une totale autorité. Qu'est-ce que ça veut dire, ces bêtises ? Comme d'aller à la surface de l'océan. Non, sire. Il faut qu'elle soit surveillée de très près.
Tu as parfaitement raison, Sébastien. Il faut que quelqu'un la suive jour et nuit.
Voilà qui est parlé, sire.
Et je ne vois qu'un crabe pour faire ça.
Un crabe ?
Oui, toi, Sébastien. Allez, commence ta surveillance. C'est un ordre. Et désormais, tu seras responsable de sa conduite et tu m'en rendras compte. Alors, file et rattrape-la.
Contrarié mais obéissant, Sébastien se précipita en nageant de travers comme tous les crabes et finit par retrouver Ariel très loin du palais, à l'entrée d'une grotte tapissée de coquillages roses et gris. Il se blottit derrière un rocher et aperçut la petite sirène qui contemplait émerveillée des dizaines d'objets venant d'épaves de navires. C'était son trésor caché dans la grotte. Il y avait des vases d'argile et de cristal, des flacons de toutes formes, des ustensiles de cuisine, des pendules rouillées, des instruments de cuivre verdi, et même une cage d'oiseaux autour de laquelle 1000 petits poissons nageaient et tourbillonnaient. Pour Ariel, toutes ces babioles étaient mystérieuses. Elle les manipulait avec précaution et amour.
Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé ? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie ? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des couacs à gogo. Tu veux un tire-baba ? J'en ai des tas. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi, je voudrais parcourir le monde. Moi, je voudrais voir le monde danser, le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle ? Pieds. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter et danser, flâner le long de ses... Comment ça s'appelle ? Rues. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il veut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas. Je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici, pour caresser les grains dorés du sable chaud. Les hommes comprennent, j'en suis certaine, et leurs filles peuvent rêver sans frayeur. Femmes sirènes, femmes humaines, j'ai fait mon choix. Moi, je veux savoir, moi, je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Qu'est-ce que le feu, pourquoi est-ce qu'il croit déjà brûle. Un jour viendra, je partirai, je partirai sans aucun regret. Loin de la mer, partir là-bas.
Pendant ce temps, la nuit était tombée sur la terre. Levant ses beaux yeux bleus vers la surface de l'océan, Ariel aperçut des lumières qui scintillaient. Curieuse et hardie, elle décida d'aller voir cela de plus près. Elle nagea vers l'ombre du grand navire qui flottait sur l'eau calme. Affolé, le pauvre Sébastien la suivait sans savoir que faire. Ariel, en s'approchant, fut éblouie par la fête qui se donnait sur le pont du navire. Cachée derrière un cordage, elle s'était hissée jusqu'au bastingage. Soudain, elle sursauta. Une voix connue lui parlait.
Oh, ça, c'est une fête, hein?
Eureka, tu m'as fait peur. Parle plus bas, on peut nous surprendre.
Rien à craindre, nous sommes aussi discrets que des espions.
Je n'avais jamais vu des êtres humains d'aussi près. Ils dansent, ils ont l'air heureux. Oh, regarde celui-là! Il est beau, n'est-ce pas?
Ariel était fascinée par le prince Eric. À cet instant, un vieil homme s'approcha de lui. C'était Grimsby, son précepteur. Il faisait admirer au prince une statue de marbre sculptée à son image et dressée sur le pont du navire.
Quel chef-d'œuvre, Grimsby! C'est vraiment ressemblant.
Je m'en suis occupé personnellement, prince. J'aurais tant voulu que cela soit un cadeau de mariage, mais...
Voyons, Grimsby, c'est une idée fixe. Oublie un peu mon mariage. Je sais, tu m'as conseillé d'épouser la princesse de Glower. Et j'ai refusé, et tu es fâché, n'est-ce pas?
Ah, Eric, je ne suis pas le seul à souhaiter ton mariage. Tout le royaume attend cet heureux événement. N'y a-t-il pas une jeune fille qui te convienne?
Mais oui, sûrement. Il y en a une. Mais je ne l'ai pas encore rencontrée. Elle est là, quelque part, dans le monde. Le jour où je la verrai, je saurai aussitôt que c'est elle. Mais pour le moment, profitons de la fête.
Comme tous les marins avisés, le vieux matelot qui avait annoncé un gros temps avait eu raison. Le ciel fut soudain traversé par des éclairs menaçants, le tonnerre se mit à gronder, le vent fit tanguer le navire et les vagues soulevées par la tempête vinrent frapper violemment la coque. L'océan se déchaîna, surprenant l'équipage.
C'est le déluge! Partons d'ici, Ariel!
Tandis que Eureka fuyait à tire d'aile, Ariel, qui avait regagné l'océan dans le tumulte de la tempête, vit un éclair frapper le grand mât du navire. Courageusement, le prince Eric essayait de maintenir le gouvernail abandonné par le maître d'équipage. Comme une coque de noix, le grand vaisseau livré à lui-même ne résista pas longtemps aux vagues immenses qui le submergeaient. Il se coucha bientôt sur le flanc. Les éclairs illuminaient le ciel noir. Ariel eut le temps de voir Eric accroché à une planche et qui luttait désespérément dans les flots. Sans hésiter, elle nagea vers lui, mais à l'instant où elle allait l'atteindre, il sombra, submergé par une vague plus haute et plus violente que les autres.
Oh, c'est affreux! Les humains ne peuvent pas respirer sous l'eau! Comment le retrouver?
Elle plongea et replongea, cherchant désespérément le jeune prince. Elle le découvrit enfin entre deux eaux. Il était inerte. De toutes ses forces, elle le tira aussi vite qu'elle put à la surface. La tempête s'était calmée aussi soudainement qu'elle s'était déchaînée. Au prix de 1000 efforts, elle parvint à nager jusqu'au rivage et déposa le corps du jeune prince sur le sable humide. Eureka revint à ses côtés.
Est-ce qu'il est mort?
Ma foi, c'est difficile à dire. Je vais écouter son cœur.
Inutile, Eureka. Regarde, il respire. Comme il est beau.
Mon seul désir, vivre à tes côtés. Mon seul espoir, rester là près de toi. Te regarder, me sourire, tendre les bras. Loin de la mer, et pour toujours, vivons sur terre et vont au grand jour. Ne m'oublie pas, l'amour est là. Toi et moi.
Au moment où le prince reprenait vie, Ariel entendit arriver le comte Grimsby, lui aussi sauvé miraculeusement du naufrage. Elle disparut aussitôt dans les flots.
Eric! Eric! Oh mon prince, je t'ai cru perdu à jamais. Oh mon vieux cœur, résiste mal à de telles frayeurs.
Je crois qu'une jeune fille m'a secouru. Elle m'a aidé à nager jusqu'au rivage. Et puis... elle a chanté pour moi. Elle avait une voix si mélodieuse. Je n'ai jamais entendu quelque chose de si beau.
Une jeune fille t'a sauvé, hein? Et elle avait une voix mélodieuse. Je crois plutôt que tu as avalé un peu trop d'eau de mer. Allons, debout, regagnons le château.
Ariel, loin du rivage, les vit tous deux s'éloigner. Elle était à la fois heureuse et triste. Elle savait qu'elle ne reverrait peut-être plus jamais le prince qu'elle avait sauvé. Et cela la désespérait. Rien n'avait échappé à la terrible Ursula qui était sans cesse renseignée par Flotsam et Jetsam, ses deux anguilles de mer.
Ça c'est trop beau! La fille préférée du roi Triton, amoureuse d'un humain! Oh, et pas n'importe qui! Un prince! Oh, 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 oh. Je le vois déjà, ce vieux Triton! Il va bouillir de rage et hurler de colère! Je la tiens, ma vengeance! Bientôt, cette petite sirène va venir orner mon jardin ensorcelé, comme les autres! J'en ferai une plante des mers, une algue ballottée par les flots. Allons, tissons la toile où elle va être prise. Voyons un peu ce qu'elle fait en ce moment.
Ariel écoutait d'un air réprobateur Sébastien le crabe qui essayait de lui faire entendre raison.
Ariel, mon enfant, reprends tes esprits. Tu es une fille de l'océan. Tu n'as rien à faire avec les humains. Tu m'écoutes? Au lieu de parler seule,
je nagerai jusqu'à son château, puis Polochon fera quelques bonds hors de l'eau pour attirer son attention et...
Ariel, ça suffit. Entrons à la maison.
Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'on vit sur la terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi t'aimerais bien vivre sous terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours. Mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, sous l'océan. Doudou c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés et prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan.
Tout occupé à convaincre la petite sirène, ce brave Sébastien, pris au rythme de sa chanson, ne s'était pas aperçu qu'Ariel avait disparu. Il allait se lancer à sa poursuite quand un hippocampe, petit cheval des mers, qui servait de coursier, vint lui apporter un message du roi. Sans perdre une seconde, Sébastien regagna le palais. Il tremblait d'avoir à révéler au roi ce qu'il savait.
Dis-moi, Sébastien, est-ce que tu as remarqué l'attitude étrange de ma petite fille? Ça m'inquiète.
Étrange, étrange, ma foi.
Elle semble rêver en marchant. Elle chante tout le temps. Elle parle seule.
C'est que...
Sébastien, tu me caches quelque chose à propos d'Ariel. Est-elle amoureuse?
Croyant que le roi avait tout découvert, Sébastien se mit à parler.
Oh, sire, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit qu'elle devait se tenir à l'écart des humains. Ils sont méchants, ils créent des problèmes.
Que dis-tu? Des humains? Quels humains?
C'est-à-dire que... des humains? Moi, j'ai parlé des humains?
Il était trop tard. Le roi avait tout compris. Il bondit furieux hors du palais et n'eut aucune difficulté à retrouver sa fille qui s'était réfugiée dans sa grotte au milieu de tous ses trésors. Elle était en admiration devant la statue du prince Eric qui avait échoué au fond de l'océan.
Père? Comment m'avez-vous trouvé?
Regarde, je suis calme. Je suis un bon roi et un bon père, et je te pose cette question. Est-il vrai que tu as sauvé un humain du naufrage?
C'est vrai, père, mais je devais le faire.
Tout rapport entre les humains et nous est dangereux, donc interdit. Tu sais bien cela, n'est-ce pas?
Il allait périr dans la tempête et je...
Mais qu'avons-nous à nous soucier des humains? Ils ne savent même pas que nous existons.
Mais celui-là est tellement... Oh, si tu le connaissais...
Je n'ai pas à le connaître plus que les autres. Ils sont tous les mêmes, cruels, barbares, chassant tous les habitants des mers avec leurs harpons, incapables de montrer un peu de bonté.
Mais papa, écoute-moi. Je l'aime. Je suis malheureuse.
Tu as perdu la raison. C'est un humain, tu es une sirène. Vous ne pourrez jamais vous rejoindre.
Ça m'est égal.
Tu ne veux pas m'aider, Ariel ? tu vas m'obliger à prendre contre toi des mesures sévères. C'est bien cela que tu veux? Et d'abord, finissons-en avec toutes ces reliques humaines.
Brandissant son trident d'où jaillissaient de terribles éclairs, le roi détruisit en un instant tous les objets accumulés dans la grotte. La statue du prince ne fut pas épargnée. Elle éclata en 1000 fragments qui furent enfouis aussitôt dans le sable. Soulagé par cette violence, le roi quitta les lieux, laissant la petite sirène en larmes et désespérée. Ariel vit alors s'approcher d'elle, ondoyante et visqueuse, Flotsam et Jetsam, les deux anguilles d'Ursula.
Qui êtes-vous ?
Rien n'est perdu, princesse. Tu dois encore espérer. Nous connaissons quelqu'un qui peut réaliser tes rêves et te rendre heureuse. Toi et ton prince, ensemble, pour toujours.
Mais comment ? Je ne comprends rien.
Ursula a de grands pouvoirs magiques.
La sorcière des mers ? Ah non ! Non, laissez-moi. Ce n'est pas possible. Partez d'ici.
Soit. Si c'est ton souhait, c'était juste une proposition.
Les deux anguilles, insidieuses, s'étaient à peine éloignées qu'Ariel aperçut dans le sable un morceau du visage brisé du prince. Cela raviva son amour. Sans hésiter, elle nagea très vite pour rattraper les anguilles.
Attendez-moi! Je viens avec vous.
C'est plus sage.
Tandis qu'Ariel et les deux anguilles nageaient ensemble, Sébastien les aperçut et s'en inquiéta aussitôt.
Ariel, où vas-tu? Que fais-tu avec ces deux canailles?
Je vais voir Ursula.
Non, non, Ariel, ne fais pas ça! C'est un démon, un monstre, elle va...
Mais oui, traître, va vite rapporter tout ça à mon père. Tu n'es bon qu'à m'espionner.
Le pauvre Sébastien ne tenta même pas d'attraper les deux anguilles d'un coup de pince comme il aurait dû le faire. Il assista impuissant au départ d'Ariel, suivi du fidèle Polochon. Précédé par les anguilles, ils traversèrent des zones inquiétantes dans les fonds sous-marins et entrèrent bientôt à travers les fanons d'une carcasse de baleine dans le domaine d'Ursula.
Bravo, bravo, mes chères petites vipères des mers! Vous m'amenez une invitée de marque. Approche, mon enfant. On ne va pas converser sur le pas de la porte, ça n'est pas poli. Alors, résumons un peu la situation. Tu es tombée amoureuse de ce jeune prince. Tout serait bien si ce n'était pas un humain. Oh, je ne te blâme pas. Je vois seulement les problèmes que cela pose. Eh bien, mon petit ange des mers et des océans, je ne vois qu'une solution pour te satisfaire. Il faut que toi-même deviennes un être humain.
Quoi ? Ce serait possible ? Vous pouvez faire cela ?
Ma douce petite sirène, je le fais chaque jour. Je ne vis que dans ce but, aider de mon mieux le peuple de la mer, les cœurs qui souffrent, les pauvres âmes en détresse, qui n'ont personne vers qui se tourner. Je n'ai pas toujours été gentille et sincère. J'ai vraiment mérité le nom de sorcière. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, je suis bonne avec autrui. Repenti, j'ai voulu faire marche arrière. Oui, oui. Il est vrai que je connais un peu de magie. C'est un talent que j'ai toujours possédé. Qu'aujourd'hui, par bonté d'âme, j'ai mis, je le proclame, au service de tous les camps désespérés. Pathétique. Pauvre ma perdition. Oh mal de tout. Cette âme-là rêve d'être un squelette. L'autre cherche une amourette. Et moi, qu'est-ce que je dis? Je dis oui. Toutes ces âmes en perdition. Oh mal de tout. Elles débarquent dans mes chaudrons en broyant Ursula, sauve-nous. Et moi, j'accepte.
Quelle question.
Il est tout de même arrivé que l'une ne puisse pas payer
et que j'avoue l'avoir fait frire sans compassion. C'est vrai que j'ai eu des plaintes, mais tout compte fait, je suis une sainte pour toutes les âmes en perdition.
Voilà les termes du contrat. Je vais te préparer une potion qui te donnera une apparence humaine pendant 3 jours. Tu entends? 3 jours! Écoute la suite, c'est très important. Avant le coucher du soleil, le 3e jour, tu feras en sorte que ce brave petit prince soit tombé amoureux de toi. Et surtout, surtout qu'il t'embrasse. Pas un baiser ordinaire, mais le baiser de l'amour véritable. S'il t'a embrassé le 3e jour avant le coucher du soleil, tu garderas pour toujours ton apparence humaine. Mais s'il ne le fait pas, tu redeviendras sirène et tu m'appartiendras à jamais.
Sébastien, qui avait assisté à la scène, se mit à hurler.
Non, Ariel ! N'accepte pas ! C'est un piège !
Alors, j'ai ton accord ?
Si je deviens un être humain, je ne verrai plus jamais mes sœurs, mon père, mes amis.
C'est vrai, c'est un choix. La vie est pleine de ce genre de problèmes. On ne peut pas tout avoir en même temps. Toi, tu auras ton prince. Mais nous n'avons pas discuté du prix que tu auras à me payer. Rien ici-bas n'est gratuit.
Vous payez ? Mais je n'ai rien.
Oh, je ne vais pas être exigeante. Je veux peu de choses. Pendant ces 3 jours, tu me donneras ta voix. Après tout, tu n'en as pas besoin.
Ma voix ?
Mais oui, ma douceur. Pendant 3 jours, tu ne parleras pas, tu ne chanteras pas.
Mais sans ma voix, que puis-je faire ?
Tu auras ton apparence, ton joli visage, ton corps. Tu crois que cela ne suffit pas aux hommes ? Allez, signe ce pacte sur ce parchemin !
Beluga, sévruga, soufflé, vent de la mer caspienne. La rixis glositi, ses cornes avocales, sa voix est à moi. Maintenant, chante. Très bien, continue.
Ursula s'était penchée sur un chaudron où cuisait une noire mixture. Bientôt, des vapeurs sortirent du chaudron. Elles prirent la forme de 2 mains crochues qui entourèrent la gorge de la petite sirène. En un instant, elles s'emparèrent de la voix pour l'offrir à Ursula. La méchante sorcière l'enferma aussitôt dans un coquillage qu'elle suspendit à un collier autour de son cou. Ursula venait ainsi de voler sa voix mélodieuse à la pauvre petite sirène. Dans le même temps, Ariel subissait sa transformation. Son corps de poisson devenait un corps de jeune fille. Elle se débattit aussitôt au fond de l'eau. Sébastien et Polochon l'aidèrent à remonter à la surface pour lui permettre de respirer et la conduisirent sur le rivage où ils retrouvèrent Eureka, le goéland, qui semblait ne rien comprendre.
Imbécile ! Tu ne vois pas qu'elle a maintenant 2 jambes ? Elle a échangé sa voix contre ça ! C'est la sorcière qui lui a volé sa voix ! Et qui est responsable de tout.
Ah, je le savais, je le savais.
C'est une femme maintenant. Ouais, une vraie femme. Il faut aussi que le prince soit amoureux d'elle et lui donne un baiser.
Et elle n'a que 3 jours pour faire tout ça. Mais regardez-la. J'en peux plus. Je craque. Mes jours sont comptés. Son père va prendre plaisir à écrabouiller un crabe incapable comme moi. Je devais la surveiller. Qu'est-ce que je vais lui raconter ? Oui, oui, mademoiselle. Vous pouvez secouer la tête. Tout ça est affreux. Oh, si je pouvais te faire retrouver ta voix et ta queue de poisson. Bon, bon ! Je n'ai rien dit. On va essayer de te faire rencontrer ton prince. Mais qu'est-ce que j'ai ? Je me ramollis tellement que j'ai l'impression de devenir aussi tendre qu'une nounou.
Tandis que Sébastien parlait et se lamentait, Eureka prit dans son bec un morceau de la voile du navire qui avait été rejeté par les vagues sur le rivage. Il le tendit à Ariel.
Maintenant que tu es une jeune fille, il faut faire comme une jeune fille. Entortille-toi dans ce bout de toile. Ça te servira de robe. C'est l'habitude chez les humains. Allez, viens. Je vais arranger ça.
Ariel était en train d'admirer ses pauvres vêtements quand le chien du prince Eric bondit vers elle et manqua la renverser. Le prince, qui se trouvait sur le rivage, arrivait aussitôt derrière lui.
Max ! Couchez, Max ! Oh, pardon, mademoiselle. C'est un chien turbulent, mais il est très gentil. J'espère qu'il ne vous a pas blessé. Mais il me semble que je vous connais. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontré ?
Ariel essaya de répondre, mais elle s'aperçut qu'elle n'avait plus de voix. Elle fit simplement non de la tête, en se tenant la gorge. Son visage laissait voir une grande tristesse.
Vous ne me répondez pas ? Vous ne pouvez faire que des signes ? Oh, je comprends. Vous ne pouvez pas parler. C'est ça, n'est-ce pas ? Pauvre jeune fille. Vous êtes muette ? Alors je me trompe sûrement. Vous n'êtes pas celle que je cherche. Celle que j'ai rencontrée avait une si jolie voix. Ça ne peut être vous. Et pourtant, vous lui ressemblez. Mais vous semblez désespéré et épuisé. Venez, je vais vous accompagner au château. Une servante vous aidera et vous donnera des vêtements. Allez, venez.
Quand le prince vit qu'Ariel avait des difficultés à marcher, car elle ne savait trop comment s'y prendre, il pensa qu'elle était si fatiguée qu'il devait venir à son secours. Il lui entoura la taille de son bras et la conduisit lentement le long du rivage. Au château, le comte Grimsby trouva le jeune prince plus songeur qu'à l'accoutumée. Appuyé à la fenêtre, il regardait la mer. Il croyait toujours entendre la voix douce et mélodieuse de la jeune fille qui l'avait secourue.
Allons, Eric, un peu de bon sens. Les jolies jeunes filles qui nagent dans la tempête volent au secours des naufragés, chantent admirablement pour les éveiller et puis disparaissent. Ce n'existe que dans les contes de fées.
Et moi, je soutiens que cette fille existe réellement. Je l'ai entendue et elle m'a sauvée. Je la retrouverai, Grimsby, et je l'épouserai.
C'est à cet instant qu'Ariel, revêtue de la belle robe de soie que lui avait donnée la servante, fit son entrée dans la salle du château. Sa beauté était si éclatante que le comte Grimsby se dressa sur ses vieilles jambes tel un sort.
Eric, regardez, est-ce une apparition ?
Vous êtes merveilleusement belle, mademoiselle l'inconnue.
Ariel rayonnait de plaisir. Le comte Grimsby lui prit la main.
Venez, venez par ici. Vous devez être affamé. Passons à table. Ce n'est pas tous les jours que nous avons une si belle invitée.
Dès qu'ils furent assis, Ariel vit une fourchette près de son assiette. Se rappelant l'objet qu'elle avait trouvé et ce que lui avait enseigné Eureka, elle s'en empara et la passa dans ses cheveux pour se peigner. Elle s'arrêta tout net, en découvrant la stupéfaction d'Eric et de son précepteur. Elle aperçut alors la grosse pipe du comte posée près de lui. Sans hésiter, elle la mit à la bouche et souffla dedans pour en tirer des sons. Le comte reçut toute la cendre en plein visage. Eric éclata de rire.
Pardonnez-moi, Grimsby, mais c'était trop drôle.
Drôle ? Ma foi, oui, très drôle. Oh, qui a-t-il à dîner ce soir ?
Je crois que le chef nous a préparé à sa façon un très beau crabe. C'est sa spécialité. Il sait que vous aimez cela, Grimsby.
En effet, dans la cuisine, Louis le chef, armé de ses longues fourchettes et de ses couteaux, surveillait le bouillon aromatisé où il allait faire cuire un crabe. Un autre crabe, cependant, affolé, terrorisé, regardait tout cela, caché derrière un monceau de casseroles. C'était, vous l'avez deviné, ce pauvre Sébastien, qui s'était perdu dans ce lieu cruel en cherchant la petite Ariel à travers le château. Il assistait avec horreur au supplice de son pauvre congénère. Louis travaillait gaiement en chantant.
Nouvelle cuisine, les Champs-Élysées, Maurice Chevalier. Les poissons, les poissons. Moi, j'adore les poissons.
Et couper, les tronçonner à vif. J'aime le trancher la tête et dépiauter la bête.
Ah, mais oui, c'est toujours un délice.
Les poissons, je leur crève les yeux et je les ouvre en deux. Je leur arrache les entrailles et je les jette dans la poêle. Ils frétillent, ils tortillent, grognent.
Louis finissait sa chanson quand soudain il aperçut le pauvre Sébastien derrière une marmite. Une poursuite infernale s'engageait à travers toute la cuisine. Armé de son énorme couteau, Louis frappait à tour de bras, renversant casseroles, plats, marmites, derrière lesquels le pauvre Sébastien essayait de se dissimuler. C'est au milieu de ce vacarme que Carlotta, la gouvernante, surgit dans la cuisine. Penaud et honteux d'avoir commis tous ces dégâts, Louis retrouva son calme. Hélas, il se dissimula sous la cloche d'un plat que Carlotta emporta à table. C'est Ariel qui le vit la première quand le plat fut découvert. Elle s'empressa de dissimuler le pauvre Sébastien tout tremblant sous sa serviette. Pendant ce temps, au fond de l'océan, le roi Triton essayait par tous les moyens de retrouver sa petite sirène. Tous ses sujets étaient en alerte.
Ne laissez rien au hasard! Explorez chaque rocher, chaque récif de corail, chaque grotte! Il faut la retrouver!
Rempli de remords, le pauvre roi se lamentait.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais jamais dû être si sévère. Où est ma petite fille? Ces humains se sont emparés d'elle, sans doute.
Triton ne savait pas que sa petite Ariel était fort heureuse en découvrant le monde des humains. Tout l'enchantait. Le lit si doux de sa grande chambre, la baignoire, les flacons, les parfums. Et le jour suivant, elle fut émerveillée par le carrosse et les beaux chevaux qui la transportèrent jusqu'au village où elle dansa au milieu des villageois avec le jeune Eric. Ariel était si heureuse qu'elle avait même oublié le terrible pacte passé avec Ursula, la sorcière des mers. Pourtant, les heures et les jours s'écoulaient. Sébastien et Polochon, eux, savaient bien le grave danger qu'elle courait. Le troisième jour était arrivé. C'était le dernier. Et le prince n'avait toujours pas embrassé la petite Ariel. Il ne lui avait pas plus déclaré son amour. Nos deux amis se décidèrent alors à agir. Eric avait convié Ariel à une promenade en barque sur le lagon bleu qui entourait le château.
Faut que le prince se décide. Faut faire quelque chose. Ah ! Je sais. Je vais créer une atmosphère romantique. La musique s'appelle l'amour. Polochon, réunis-moi tous les flamants roses du lagon, les oiseaux, les grenouilles. On va donner la sérénade aux deux amoureux.
Percussions, cordes, cuivre, charme. Regarde-la, douce et fragile à la fois. Elle ne dit rien, elle se tait, mais ton cœur brûle en secret. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que toi, t'aimais bien l'embrasser.
Vous avez entendu?
Tu rêvais d'elle, tu l'attends depuis toujours. Si c'est un roman d'amour, faut provoquer l'étincelle. Et les mots, crois-moi, pour ça il n'y en a pas. Décide-toi, embrasse-la avec moi maintenant. Chalalalala, my oh my, il est intimidé, il n'ose pas l'embrasser. Chalalalala, s'il est sage, ça c'est vraiment dommage. Adieu la fiancée.
Ému par cette sérénade, attendri, attiré par la beauté de la jeune Ariel, le prince Éric se penchait déjà vers elle, prêt à lui donner un doux baiser, quand brusquement la barque fut renversée. Tout le monde se retrouva dans l'eau bleue du lagon. Oui, mes amis, Ursula veillait, et c'est elle qui venait de provoquer ce naufrage.
Ouf ! Il s'en est fallu de peu. Cette petite peste est plus rusée que je croyais. Je dois agir vite et autrement, si je la veux pour moi, à jamais. Alors ce vieux Triton se tortillera devant moi comme un ver de vase pris à l'hameçon. Allons, au travail!
L'horrible sorcière s'affaira immédiatement autour de son chaudron magique. Elle y jeta toutes sortes d'ingrédients repoussants qui dégageaient aussitôt des vapeurs noires et nauséabondes. En les respirant à pleine narine, l'affreuse sorcière se transforma à vue d'œil. Elle prit bientôt la forme d'une belle jeune fille aux longs cheveux bruns. Le coquillage qu'elle portait autour du cou et qui contenait la voix d'Ariel lui permettait de faire entendre les sons les plus doux et les plus mélodieux. Ainsi transformée, elle se dirigea vers le château du prince. Assis sur les marches du large escalier, Eric rêvait. Il regardait tendrement la fenêtre de la chambre qui abritait la jeune Ariel. Il se demandait s'il n'en était pas amoureux. À cet instant, sortant de la brume légère qui courait sur les flots, il entendit soudain le son délicieux qui avait charmé son rêve. Il courut vers le rivage et là, il fut émerveillé par l'apparition d'une jeune fille qui avait la voix d'Ariel. La ruse d'Ursula avait réussi. Le jour suivant, Ariel dormait encore quand Eureka franchit la fenêtre de sa chambre et atterrit en catastrophe au pied du lit où s'était réfugié Sébastien.
Ariel, réveille-toi, habille-toi vite, nous avons gagné. Eric annonce son mariage pour aujourd'hui.
Qu'est-ce que cet idiot est en train de dire?
La vérité, la vérité. Si tu ne sais rien, moi je sais tout. Tout le château est sans dessous-dessus. Dessus-dessous. Enfin bref, le prince veut se marier dès cet après-midi.
Folle de joie, Ariel se vêtit rapidement et se précipita dans l'escalier. Elle s'arrêta sitôt qu'elle entendit ce que Grimsby disait au prince.
Je reconnais que je m'étais trompé. C'est toi qui avais raison. La jeune fille dont tu rêvais existe bien. Elle est arrivée de la mer et elle chante mieux qu'un rossignol. Félicitations, mon prince.
Je veux que le mariage soit célébré dès ce soir. Nous embarquerons sur le bateau royal.
Ariel remonta aussitôt l'escalier. Elle était accablée. Elle savait bien que c'était elle qui avait sauvé le prince. Elle ne comprenait plus. Il fallait qu'elle quitte le château sans retard. L'après-midi de ce même jour, Eureka se posa sur le pont du bateau royal où devait être célébré le mariage. Par un hublot, il aperçut une jeune personne qui, devant sa table de toilette, coiffait ses longs cheveux tout en chantant pour elle.
Mon Dieu, quelle jeune et jolie mariée je vois dans mon miroir. C'est vrai que mon plan s'est déroulé au-delà de mes espoirs. La petite sirène est dans mes mains et l'océan m'appartient.
Dans le reflet du miroir, Eureka reconnut, dissimulée derrière le visage de la jeune fille, l'horrible image d'Ursula la sorcière. En un instant, il comprit la supercherie. Il vola d'un trait vers le port où il retrouva Sébastien et Polochon qui essayaient de consoler la pauvre Ariel.
Je sais tout, les amis. C'est Ursula qui a pris l'aspect et la voix d'Ariel. Le prince va épouser la soupière. La sorcière. La sorcière.
Tu es sûr de ça?
M'as-tu déjà vu me tromper? Sauf les fois où je me suis trompé.
Ariel regarda dans la direction du bateau royal. Elle se rappela les paroles terribles d'Ursula.
Avant le coucher du soleil du troisième jour.
Sans plus hésiter, Ariel plongea dans l'eau. Mais le bateau était loin et Ariel ne nageait plus comme une sirène. En un instant, Sébastien, aidé de Polochon, fabriqua avec deux tonneaux vides un radeau qui l'amarra à une corde.
Grimpe là-dessus, Ariel. On va te tirer jusqu'au bateau.
Et moi, qu'est-ce que je fais?
Mais trouve une ruse, je sais pas quoi. Un moyen d'arrêter ce mariage.
Une ruse, une buse. Une buse? Pourquoi pas?
Le radeau était lourd. Sébastien et Polochon tiraient de toutes leurs forces.
Il faudrait bien que le roi Triton nous voie. Il reconnaîtrait notre courage et nous pardonnerait.
Sur le bateau, le ministre du royaume s'apprêtait à célébrer le mariage. Eric, qui semblait absent et comme hypnotisé, se tenait auprès de la jeune fille qui n'était en fait que la sorcière. au moment où les vœux du mariage allaient être prononcés, une armée d'oiseaux de toutes sortes s'abattirent sur le pont. Eureka avait tenu parole. Il y avait des cormorans, des goélands, des mouettes, des hirondelles de mer. Du fond de l'eau, des crabes, des homards, des étoiles de mer avaient aussi envahi le pont. Tous s'attaquaient à la sorcière, tirant ses cheveux, piquant son visage, pinçant sa chair.
Oh, oh, ah, oh là, oh non, oh, partez d'ici, laissez-moi. Oh là, au secours, oh.
C'est à ce moment que Max, le brave gros chien d'Eric, se mit aussi de la partie. Bondissant sur la sorcière, il lui arracha son collier. Le coquillage qui contenait la voix d'Ariel se brisa net. Une vapeur dorée s'en échappa et vint rejoindre la petite sirène qui, elle aussi, avait grimpé sur le pont. Ariel retrouva aussitôt sa voix et Ursula sa forme horrible.
Ariel ! Ariel !
Eric !
Alors, vous pouvez parler ? C'est donc vous ? Je vous reconnais.
Éloigne-toi d'elle, jeune fou ! Elle m'appartient !
Oh, Eric, je voulais tout le temps te dire, mais je ne pouvais pas.
Trop tard, mes tourtereaux. Le soleil se couche déjà. 3 jours sont passés. Le pari est gagné.
La sorcière, entourée d'un nuage opaque, s'empara d'Ariel, qui retrouva aussitôt son corps de sirène, et d'un coup l'entraîna dans les flots hors du navire.
Adieu et à jamais, jeune amoureux.
Tandis qu'Ursula tentait de gagner les profondeurs, tirant après elle la pauvre petite sirène, le roi Triton, puissant et majestueux, se dressa de toute sa haute stature en face d'elle.
Et maintenant, arrête, Ursula! Cesse ce jeu ignoble!
Tiens, Triton en personne, et qui m'ordonne? Mais quoi?
Libère-la!
Impossible! Elle a signé un pacte! Regarde ce parchemin!
Oh père, je te demande pardon, je ne savais pas!
Le roi furieux frappa le parchemin avec toute la force de son trident. Mais ce fut sans effet.
Rien à faire! Ce qui doit arriver, arrive! Regarde, ta fille est devenue une algue et elle va orner mon jardin ensorcelé pour l'éternité, à moins que quelqu'un d'autre accepte de prendre sa place. Toi, par exemple, grand roi, accepterais-tu que je remplace son nom par le tien sur ce parchemin?
Vaincu et désespéré, le roi Triton accepta aussitôt. Alors Ariel retrouva sa forme de sirène, et ce fut le pauvre Triton qui fut transformé en un buisson d'algues molles. Ursula s'empara avidement de son trident et de sa couronne.
« Me voilà reine des mers! J'ai réussi! J'ai réussi !»«
Vous n'êtes qu'un monstre! Je n'ai pas peur de vous! Je vous combattrai !»
Courageusement, Ariel se jeta sur la sorcière. Mais hélas, elle n'était pas de taille pour lutter contre ce démon. D'un coup de trident, Ursula l'envoya rouler au fond des sables de l'océan.
« Petite prétentieuse, contrat ou non, j'ai gagné. Je ne veux plus te voir sur ma route !»
À cet instant, Ursula ressentit une grande douleur. Un crochet acéré venait d'atteindre ses tentacules. Eric s'était lancé à sa poursuite et la pourchassait jusqu'au fond de l'eau armée de son harpon. Ursula appela aussitôt à son secours ses 2 vipères des mers.
« Eric, prends garde derrière toi !»
Les 2 vipères, enroulées autour du bras du prince, tentaient de le tirer au fond de l'eau. C'est alors que Sébastien décida d'intervenir. Il planta ses pinces redoutables dans la queue des 2 vipères. Il y mit toute la force du désespoir. Les 2 serpents lâchèrent prise.
« Oh, mes pauvres chéris, je vais vous venger !»
Ursula cracha un énorme nuage d'encre noirâtre à l'instant où Ariel rejoignit Eric à la surface des flots.
« Eric ? Oh, je ne vois plus rien. Où es-tu ? »
Reine des mers, armée de son trident, Ursula se transforma alors en un énorme monstre marin. Sa tête hideuse émergea des flots. Elle provoqua d'immenses vagues qui remuèrent l'océan jusque dans son tréfonds.
« Vous ne m'échapperez pas ! Je suis la reine désormais ! Tout l'océan obéit à mes ordres !»
Usant de sa puissance, la sorcière provoqua un violent tourbillon qui mit en mouvement toutes les épaves des navires qui gisaient dans les grandes profondeurs. Ce dernier excès de puissance fut sa perte. Le jeune prince, hardi et bon marin, vit aussitôt le parti qu'il pouvait tirer de ses épaves déchiquetées et dangereuses. Agrippé à l'une d'elles par une corde, il en dirigea la pointe acérée vers la tête énorme du monstre. Ursula reçut le choc dans la masse gélatineuse de son corps.
Ah !
Le ciel et la mer se confondaient dans la tourmente. C'était l'agonie de la sorcière dont le corps se déchirait dans l'eau noirâtre. Des lambeaux de ses tentacules étaient projetés de toutes parts. Il y eut un terrible grondement, et puis ce fut la fin. Les flots retrouvèrent bientôt leur calme et leur sérénité. La sorcière avait disparu à jamais.
Eric, enfin, je te croyais perdu.
Nous n'avons plus rien à craindre.
Alors, libérés des maléfices de la sorcière, toutes les algues retrouvèrent leur forme première. Des nuées de petites sirènes quittèrent le jardin maudit où Ursula les retenait prisonnières. Bientôt, le trident du roi qui avait coulé par le fond toucha à son tour le buisson où Triton était prisonnier. Le miracle s'accomplit. Aussitôt, le grand roi retrouva sa force, sa puissance et sa forme. En compagnie de Sébastien, il se mit à la recherche de la petite sirène. Ils l'aperçurent sur un rocher. Elle regardait Eric, qui regagnait son bateau.
Elle a l'air vraiment amoureuse. C'est ton avis, Sébastien ?
Ma foi, c'est ce que j'ai toujours dit, sire. Les enfants, faut leur obéir. Ils ont toujours raison.
Vraiment, tu as dit ça, Sébastien ?
Parole de crabe, majesté.
Alors, il n'y a qu'une solution à ce problème.
Une seule, oui. Une seule, sire. Usant de votre puissance, rendez-lui sa forme humaine.
Regarde plutôt. C'est déjà fait.
Eric approchait du rocher où s'était réfugié Ariel. Il aida la jeune fille de ses rêves à gagner le pont du navire. Ariel rayonnait de bonheur. Le mariage allait être célébré. Alors la petite sirène se tourna un instant vers l'horizon et comme si elle y apercevait son père et tous ses amis, elle leur envoya un baiser en soufflant délicatement sur la paume de sa main. Elle savait que son père était désormais à ses côtés et qu'il venait peut-être de se réconcilier avec le genre humain.